Vous adorez un Dieu qui vous voit. Il ne s'agit pas seulement d'histoire ancienne. C'est notre identité. Et lorsque nous comprenons vraiment cela, cela change la façon dont nous nous percevons et percevons le monde qui nous entoure. Et lorsque nous sommes dans des moments de désespoir, Dieu peut nous ouvrir les yeux et nous aider à voir ce que nous ne pouvons pas voir. Le Dieu qui a vu Agar, le Dieu qui a entendu Ismaël et le Dieu qui vous voit. Je ne vous laisserai pas sans réconfort. Je viendrai à toi. Si vous vous souvenez de notre aperçu général de l'Ancien Testament de notre premier cours, vous avez probablement remarqué que jusqu'à présent dans notre cours, nous nous sommes concentrés sur les premiers événements de l'histoire, mais que nous allons maintenant zoomer sur les prochaines périodes de cours sur les patriarches et les matriarches. Abraham et Sarah et leurs descendants. Et à mesure que notre cours s'accélère, il peut devenir facile de se perdre dans le scénario. Et donc je veux commencer par une recommandation selon laquelle, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous recommande vivement le livre Histoire de l'Ancien Testament de l'Église. Il existe une version gratuite disponible en ligne. Vous pouvez acheter une copie papier. Ce n'est pas seulement pour les enfants. Je pense que c'est vraiment utile, même pour les adultes, de simplement comprendre le scénario. J'y ai donc mis un lien sur le site web du cours. Et encore une fois, je veux juste vous recommander de lire l'intégralité de ce livre. Cela ne prendrait probablement que 45 minutes environ, mais c'est très utile car il y a beaucoup de détails dans l'Ancien Testament. Et quand on se perd dans l'intrigue, il est facile de se décourager et de se dire « Oh, je vais y renoncer ». Mais le scénario est fascinant, alors ayez une vue d'ensemble et cela vous aidera avec certains des petits détails en cours de route. Aujourd'hui, alors que nous nous concentrons sur les histoires d'Abraham, Sarah et Agar, nous verrons que l'un des plus grands défis de la vie est de gérer les attentes. Et je pense que nous sommes tous passés par là, n'est-ce pas? Vous avez été sur Pinterest, vous avez vu cette création étonnante. C'est votre attente, mais votre réalité est quelque peu différente. Ou c'est la première chute de neige de l'année. Vous êtes tellement excité de sortir avec l'un de vos enfants. Vous allez construire ce magnifique bonhomme de neige. Le vôtre n'a pas l'air si beau. Ou je pense à certains de ces missionnaires de retour. Ils rentrent de leur mission, ils vont à BYU. C'est leur attente et leur réalité. Alors lorsque nos attentes sont différentes de notre réalité, cela peut poser des problèmes. Cela peut diminuer notre bonheur en fait, ont écrit les chercheurs d'une étude à grande échelle, le bonheur momentané est un état qui reflète non pas la façon dont les choses se passent, mais plutôt si les choses se passent mieux que prévu. Cela semble étrange, mais en réalité, si vous voulez augmenter votre bonheur, réduisez vos attentes. Et j'en parle parce qu'il y a une attente que je pense que certains d'entre nous pourraient avoir au plus profond de leur cœur et qui peut nuire à notre bonheur. Cette attente est que si je respecte les commandements, tout ira bien pour moi à court terme. Sur le plan cognitif, nous regardons cela et nous pensons que ce n'est probablement pas vrai, mais souvent nous agissons comme si c'était le cas. Mais les Écritures nous montrent clairement que ce n'est pas la réalité. Pensez simplement à la vie d'Abraham. Abraham voulait plutôt avoir une famille aimante, il avait un père violent. Sarah et Abraham étaient mariés. Leur espoir était d'avoir des enfants, mais la réalité était qu'ils ont lutté contre l'infertilité pendant des décennies. Le Seigneur dit à Abraham et Sarah de déménager à Canaan. Pouvez-vous sentir leurs grands espoirs? Mais la réalité est qu'il y avait une famine dans le pays à leur arrivée. Ce n'est pas parce que vous faites ce qui est bien que tout ira bien pour vous à court terme. Explorons cela en examinant plus attentivement certaines parties de la vie d'Abraham. Le livre d'Abraham, chapitre 1, verset 1 commence par ce qui pourrait être l'un des plus grands euphémismes de l'Écriture. Abraham dit « Moi ». Abraham a vu qu'il me fallait obtenir un autre lieu de résidence. Je veux dire, on dirait que son contrat a expiré. Il est un peu comme, vous savez, déménager dans le prochain complexe d'appartements ou quelque chose du genre. Mais en poursuivant votre lecture, vous découvrez que la raison pour laquelle Abraham doit déménager est que les membres de sa famille tentent de le tuer. Abraham rapporte que les membres de ma famille ont tourné leur cœur vers le sacrifice des païens en offrant leurs enfants à des idoles muettes. Et n'écoutez pas ma voix, mais essayez de m'ôter la vie. Alors, dans ce moment de danger extrême, ils ont levé la main sur moi. Abraham dit, « J'ai élevé la voix vers le Seigneur mon Dieu. L'ange de sa présence s'est tenu à mes côtés, et immédiatement jusqu'à ce que choisissait mes groupes. Et sa voix était pour moi.
« Abraham, Abraham.
Voici, mon nom est Jéhovah, et je t'ai entendu, et je suis descendu pour te délivrer. Et l'Éternel renversa l'autel, et frappa le prêtre, qui mourut. C'est le genre d'histoire biblique que j'adorais quand j'étais enfant. » C'est comme David et Goliath ou Daniel dans la fosse aux lions. Toutes les chances sont contre vous et Dieu pourvoit au miracle. Et c'est en fait ce genre d'histoire qui renforce l'attente dans mon cœur. Si je fais ce qui est bien, tout ira bien. Ces dernières années, j'en suis venu à apprécier encore plus un autre type d'histoire dans les Écritures. Cela est associé à l'histoire d'Abraham. c'est l'histoire de trois jeunes femmes devant le même autel. Abraham nous raconte qu'avant d'être sacrifié, le même prêtre avait offert sur cet autel trois vierges. En raison de leurs vertus, ils ne s'inclinaient pas pour adorer des dieux de bois ou de pierre. C'est pourquoi ils furent tués sur cet autel. Ces trois jeunes femmes puissantes nous rappellent que les choses ne marchent pas toujours à court terme pour les fidèles. C'est vrai dans les Écritures et c'est vrai dans la vraie vie. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà vu un film religieux. J'ai vu un film religieux une fois, un peu comme ça. C'est un groupe de jeunes qui regardent un film et vous pouvez dire que quelque chose dans le film ne va pas parce que la musique devient sombre et l'écran devient sombre et vous vous demandez « Que va-t-il se passer ?» Et l'un des jeunes lève la main et dit « Eh, les gars, je me sens pas bien à propos de ça. » Et tout le monde dit « Ouais, je ne me sens pas bien non plus. Je ne savais tout simplement pas quoi dire. » Et tout le monde monte manger de la glace et ils sont tous contents. Ainsi, la semaine suivante, vous êtes chez votre ami, vous regardez un film et quelque chose de sombre apparaît à l'écran. Et donc vous vous dites « Eh les gars, je ne pense pas que nous devrions regarder ça. » Et tout le monde dit « Tais-toi. Et tu vas manger une glace avec tes amis. »
Mammon.
Vous savez, c'est comme si ce n'était pas exactement ce que vous espériez. Vous pouvez faire ce qu'il faut tout en vous sentant seul. Vous pouvez respecter tous les commandements tout en laissant des membres de votre famille s'égarer. Des choses sombres se produisent même dans la meilleure des vies des gens. L'exemple de ces trois jeunes femmes et d'Abraham, chapitre 1, me donne le courage d'avancer même lorsque les choses sont difficiles. Je crois qu'il y a une force qui entre dans nos vies lorsque nous croyons en Dieu, non pas en fonction des résultats, mais lorsque nous croyons en lui quels que soient les résultats.
Pensez si griega.
Est-ce que je crois en Dieu parce qu'il est comme un distributeur automatique cosmique qui peut me donner tout ce que je veux ou est-ce que je crois en Dieu parce qu'il est un père aimant qui prend soin de moi-même lorsque les choses sont difficiles? Les choses étaient donc vraiment difficiles pour Abraham. Alors il a dû déménager. Les érudits débattent donc du point de départ d'Abraham, mais il finit par se rendre à Haran, dans le sud de la Turquie, puis à Canaan, dans la terre promise. Abraham avait 75 ans et Sarah 65 ans lorsqu'ils arrivèrent à Canaan. Et cela commence un nouveau chapitre dans leur vie. Pas seulement un nouveau chapitre de géographie, mais un nouveau chapitre de leur identité qui sera centré sur ce que nous appelons aujourd'hui l'Alliance Abrahamique. Et parce que nous faisons partie de la famille d'Abraham, nous participons également à cette alliance. Et quelque chose que j'espère est vraiment profond dans chacun de nos cœurs, c'est que l'Alliance Abrahamique n'est pas une histoire ancienne, c'est notre identité. Maintenant, certains d'entre nous pourraient se sentir un peu incertains quant à ce qu'est exactement l'Alliance Abrahamique. Peut-être qu'une version simple consisterait à se souvenir des trois promesses du PS. Abraham reçoit une terre promise, une postérité et un sacerdoce, et parallèlement à ces promesses, une responsabilité spécifique est confiée à Abraham et à ses descendants. Alors regardons cela d'un peu plus près. Il y a d'abord une terre promise. Quand Abraham arrive à Canaan, Dieu dit à ta descendance, « Je donnerai ce pays ». Et puis au chapitre 13, il répète la promesse en disant, « Regarde autour de toi, d'où tu es, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Et cette promesse est continuellement réitérée à Abraham et à ses descendants. Deuxièmement, c'est la postérité. Dieu dit à Abraham, « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, afin que si quelqu'un pouvait compter la poussière, alors ta postérité pourrait être comptée. » Nous avons donc la terre promise, la postérité. Et dans le livre d'Abraham, chapitre 2, nous voyons une promesse claire concernant à la fois la prêtrise et la responsabilité qui vient avec l'alliance abrahamique. Dieu dit, « Je rendrai ton nom grand parmi toutes les nations, et tu seras une bénédiction. Et à ta postérité après toi, afin qu'ils portent entre leurs mains ce ministère et ce sacerdoce pour toutes les nations. » Tous ceux qui ont reçu cet évangile seront appelés d'après ton nom et seront considérés comme ta postérité. Et en ta postérité, toutes les familles de la terre seront bénies, même des bénédictions de l'évangile. Parfois, une personne peut se demander, est-ce que je fais vraiment partie de la postérité d'Abraham? Est-il mon ancêtre littéral? Il pourrait certainement être votre ancêtre littéral. Mais remarquez ici qu'il est dit que si beaucoup le reçoivent, cet évangile sera considéré comme ta semence. Ainsi, que vous soyez ou non littéralement le descendant d'Abraham, vous et moi faisons tous littéralement partie de cette alliance. On nous a promis la postérité, la prêtrise, une terre promise, et on nous a donné la responsabilité d'aider à apporter l'évangile au monde. Il ne s'agit pas seulement d'histoire ancienne. C'est notre identité. Et lorsque nous comprenons vraiment cela, cela change la façon dont nous nous percevons et percevons le monde qui nous entoure. David Bednar a enseigné que nous sommes la postérité d'Abraham. Vous et moi, aujourd'hui et toujours, devons bénir tous les peuples de toutes les nations de la terre. Vous et moi, aujourd'hui et toujours, devons témoigner de Jésus-Christ et déclarer le message de restauration. Proclamer l'Évangile n'est pas une mission que nous devons accomplir. Le travail missionnaire est plutôt une manifestation de notre identité et de notre héritage spirituel. Nous avons été ordonnés dans notre existence prémortelle et nés dans la condition mortelle pour accomplir l'alliance et la promesse que Dieu a faite à Abraham. C'est ce que nous sommes et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui et toujours. En quoi cela change-t-il votre vie de savoir que c'est pour cela que vous êtes ici? Vous êtes né pour partager l'Évangile. Maintenant, vous vous souvenez peut-être de quelques cours. Il y a quelques heures, nous avons parlé des doctrines, des principes et du cadre d'application. Les doctrines sont donc des vérités de salut que Dieu révèle. Les principes naissent de la doctrine. Ce sont des lignes directrices fondées sur la doctrine pour nous aider à exercer notre libre arbitre, puis les applications naissent des principes. Ce sont des comportements spécifiques. Donc, si nous réfléchissons à cette doctrine dont nous avons parlé, nous pourrions peut-être l'intégrer dans le cadre. Quelque chose comme ça. Dieu a conclu des alliances avec Abraham qui perdurent encore aujourd'hui, s'appuyant sur cette doctrine comme principe. En tant que descendant d'Abraham, j'ai un rôle à jouer dans la diffusion de l'Évangile sur toute la terre. Quelle est l'application de ce principe pour vous personnellement? Il y a donc beaucoup d'applications possibles, n'est-ce pas? Je pourrais partager l'Évangile de manière normale, ou je pourrais devenir missionnaire à plein temps ou servir comme missionnaire de service. Il existe de nombreuses possibilités et certaines sont très simples. Supposons que ce dimanche matin, je me réveille et que je n'ai pas envie d'aller à l'église. Si la doctrine de l'alliance abrahamique est profondément ancrée dans mon cœur, voyez-vous comment je verrai l'église différemment? Il ne s'agit pas de savoir si j'ai envie d'aller à l'église. Je fais partie d'une alliance vieille de 4000 ans qui vise à rassembler Israël, et une partie d'Israël se rassemble aujourd'hui pour la réunion de Sainte-Seine. Donc c'est sûr que je vais y aller et que je vais aussi amener beaucoup de monde avec moi. Même quelque chose d'aussi simple qu'une réunion de Sainte-Seine peut être transformé lorsque nous ressentons l'alliance abrahamique dans notre cœur. J'aimerais donc entendre certaines de vos réflexions sur cette question. Que vous enseigne Dieu sur vos responsabilités vis-à-vis de l'alliance abrahamique? Dans le tout dernier discours du président Monson, il était assez bien et assez fort pour le prononcer. La chaire était à la conférence générale d'octobre 2015. Et il a dit, « Si nous suivons les enseignements et l'exemple du Sauveur et vivons comme lui, il y aura en nous une lumière qui éclairera le chemin pour les autres. » Et j'ai juste essayé d'utiliser cela comme plateforme chaque jour, parce que je ne pense pas être un missionnaire vraiment fort quand il s'agit d'extraire les Écritures et tout ça. Mais si je peux simplement aimer comme le Sauveur a aimé, je pense que je suis sur le point de vivre cette alliance. Merci. Notre fils est un actif dans l'Église, mais nous, juste. Mon mari et moi pensons que la manière la plus importante, je suppose, de respecter cette alliance abrahamique est simplement d'être cette lumière. Cette sœur vient d'en parler. Plus nous pouvons simplement aimer les autres et les accepter là où ils en sont, mais aussi plus nous pouvons être là où nous en sommes. C'est un ça va. Et je pense que c'est ainsi que le Seigneur attend de nous en ce moment. Merci. Nous faisons donc partie d'une alliance vieille de 4000 ans. Mais nous devons avoir les bonnes attentes NS. Tout simplement parce que nous faisons partie de l'alliance abrahamique. Cela ne veut pas dire que tout va être facile pour nous. Et les choses n'étaient certainement pas faciles pour Abraham parce qu'il avait reçu toutes ses promesses, mais elles ne semblaient pas se réaliser. Ainsi, à une occasion, Abraham ouvre son cœur à Dieu et dit « Seigneur, comment puis-je le savoir ?» Dieu dit « Je vous donne une terre promise. Je vous donne une postérité. » Mais là, j'étais comme si rien de tout cela ne venait. Et peut-être que nous ressentons la même chose, peut-être une bénédiction patriarcale qui parle de votre futur mariage et de vos futurs enfants. Et maintenant, vous vieillissez et vous vous demandez, que se passe-t-il avec ces promesses? Parfois, nous allons dire, Seigneur, comment puis-je savoir? Et dans le cas d'Abraham, Dieu donne une réponse très intéressante. Il dit, apporte-moi une génisse, une chèvre et un bélier, âgés chacun de 3 ans, ainsi qu'une colombe et un jeune pigeon. Et je pense que c'est une demande étrange, honnêtement. Par exemple, si je priais comme, Seigneur, comment puis-je le savoir? Et il m'a dit, apporte-moi une vache, une chèvre. Je me demanderais, et pourquoi pas Chick-fil-A? Vous savez, on dit, mais Abraham était obéissant. Et remarquez ce qu'Abraham fait quand Abraham lui apporte toutes ces choses, les coupe en deux et dispose les moitiés l'une en face de l'autre. Or, Dieu n'a pas dit à Abraham de découper aucun des animaux. Abraham sait automatiquement comment faire cela. Comment Abraham sait-il quoi faire? C'est parce qu'Abraham a dit, oh, je comprends, nous allons conclure une alliance. La phrase hébraïque que nous traduisons en anglais est littéralement « faire une alliance » en hébreu. C'est rompre une alliance. Dans l'ancien Proche-Orient, il existait parfois un rituel lié à la conclusion d'une alliance selon lequel les animaux étaient coupés en deux et placés de chaque côté d'un chemin, et les deux parties signataires de l'alliance marchaient entre les sentiers ou parcouraient le chemin entre les animaux. C'était une manière symbolique de dire quelque chose comme « si je romps l'alliance que je m'apprête à conclure en mai, ce qui est arrivé à ces animaux m'est arrivé. Et c'est bien plus intense qu'une petite promesse, c'est sûr. Maintenant, quelque chose de très surprenant se produit après qu'Abraham ait disposé les animaux. Nous lisons que lorsque le soleil s'est couché et que l'obscurité est tombée, un pot à feu fumant avec une torche flamboyante est apparu et est passé entre les morceaux. Maintenant, soyons honnêtes, la plupart d'entre nous essaient de lire ce verset. C'est bizarre, et nous continuons simplement à lire. Mais bon, ralentissons. Ce verset se connecte directement au mont Sinaï, où Dieu apparaît dans le livre de l'Exode et conclut une alliance avec son peuple. Le mont Sinaï était couvert de fumée parce que le Seigneur y descendait dans le feu. Les mêmes éléments fondamentaux de fumée et de feu sont présents dans les deux récits. En d'autres termes, ce pot à feu fumant et cette torche flamboyante dans Genèse 15, c'est Dieu lui-même qui marche entre les animaux, concluant une alliance avec Abraham. Et il y a quelque chose de surprenant dans cette histoire, c'est que vous avez peut-être remarqué que Dieu lui-même marche entre les morceaux, mais pas Abraham. C'est un renversement, car dans un contexte proche-oriental ancien, parfois le roi ne marchait pas entre les pièces. C'était la personne de statut inférieur qui marchait entre les morceaux. Mais Dieu inverse cela. Il passe à travers. C'est comme si Dieu disait à Abraham, « Même si tu échoues, je n'échouerai pas. » Alors la réponse à la question d'Abraham vous ennuie ? Comment puis-je savoir s'il s'agissait d'une alliance ? Vous voyez, l'avenir d'Abraham ne dépend pas de sa force. Cela dépend de la promesse de Dieu. Alors si vous avez un doute sur une décision dans votre vie, si au fond de vous quelque part vous vous dites, « Seigneur, comment puis-je le savoir ?» La réponse se trouve dans nos alliances. Si nous respectons fermement nos alliances, nous ressentirons la paix de Dieu. Je témoigne que c'est vrai. Ainsi, dans Genèse chapitre 17, Dieu apparaît à nouveau à Abraham et lui promet la postérité. Une terre promise. Mais cette fois, l'alliance est liée à un nouveau nom et à un signe. Dans Genèse 17, le symbole est la circoncision. Nous lisons « Et vous circoncirez la chair de votre prépuce, et ce sera un signe de l'alliance entre moi et vous ». D'autres traductions de la Bible y font référence comme un signe de l'alliance, de sorte que les termes « jetons » et « signes » indiquent que la circoncision est un rappel tangible de l'alliance qu'Abraham conclut. Tout comme nous l'avons vu récemment avec le déluge de Noé et l'arc-en-ciel étant un signe ou un signe de l'alliance à cette époque, Abraham et Sarah reçoivent également de nouveaux noms. Maintenant, ce qui se passe ensuite est puissant. Dieu commande à Abraham et nous lisons ce jour-là qu'Abraham prit tous les mâles de sa maison et les circoncit comme Dieu le disait. Dès lui, c'est la foi. Pas de retard pour Abraham. Réfléchissez à ce que le mot lui-même signifie. Le mot circoncision vient de deux racines latines signifiant autour d'une circonférence et coupé dans une incision similaire. Cela signifie donc littéralement coupé. Et une personne pourrait se demander, pourquoi parlons-nous de cela? Parce que Jésus-Christ lui-même a dit, la loi de la circoncision est abolie en moi. Donc pour nous, la circoncision physique ne fait pas partie de l'Évangile. Mais remarquez ce que l'apôtre Paul a écrit lorsque vous êtes venu à Christ. Vous avez été circoncis, mais pas par une procédure physique. Le Christ a pratiqué une circoncision spirituelle. La suppression de votre nature pécheresse. C'est un verset puissant. Maintenant, je vais juste poser quelques questions à l'écran. Pensez à ce que les paroles de Paul pourraient signifier pour nous dans nos alliances. Pouvez-vous penser à une expérience où Dieu vous a aidé à éliminer quelque chose de nuisible dans votre vie? Comment cela vous a-t-il changé? Dans les temps anciens, la circoncision marquait quelqu'un comme appartenant à l'Alliance. Comment la métaphore de Paul nous aide-t-elle à comprendre ce que signifie appartenir au Christ aujourd'hui? Le jour où Dieu a ordonné la circoncision, Abraham a obéi. Y a-t-il quelque chose que vous pensez devoir supprimer de votre vie en ce moment? Maintenant, ces questions pourraient nous amener à commencer à réfléchir à des choses spécifiques à supprimer dans nos vies. Peut-être qu'il y a de mauvais médias dans ma vie et que je dois m'en débarrasser. Et ce n'est pas une mauvaise application. Mais remarquez que dans le verset, Paul parle spécifiquement du changement de notre nature, de l'élimination de notre nature pécheresse, tout comme le peuple du roi Benjamin qui n'avait aucune disposition à faire le mal à temps. Les changements du Christ sont de nature réelle. Et à quoi ça ressemble? Et l'application plutôt que le simple fait de supprimer quelque chose et de le remplacer ensuite par quelque chose qui est la même chose mais différent? Une petite pensée que j'ai, c'est que vous avez raison. Comme parfois, nous voulons une liste de contrôles, comme si j'allais supprimer ces trois mauvaises choses. Je vais faire ces trois bonnes choses. Et il ne s'agit pas seulement des actions que je prends. Il s'agit de devenir. Et donc au moins pour moi, une partie de la réponse est, métaphoriquement parlant, de m'immerger en Jésus-Christ, de le regarder, de son amour, de son sacrifice, de vraiment le laisser mariner mon cœur. Et vous pouvez le faire par l'étude des Écritures, par le temple, par la musique, par les films. Et vous pouvez le faire d'une manière qui ressemble à une liste de contrôles, en faisant toutes les choses. Et vous pouvez aussi le faire d'une manière où c'est comme si vous étiez face à la beauté de Jésus. Et plus je vois la beauté du Christ dans sa vie, son amour et sa miséricorde, alors cela change ma nature. Les passages bibliques que nous avons examinés disent que c'est lui qui va couper la nature pécheresse. Alors oui, je dois faire ma part et supprimer certaines choses de ma vie. Mais en fin de compte, il s'agit d'une renaissance spirituelle en Christ. Voici une dernière réflexion sur ce sujet. La circoncision était une marque recouverte par les vêtements et rappelait aux gens leurs alliances. Considérez une citation de Carlos Assé à l'intérieur. Il a écrit que les vêtements du temple portent plusieurs marques simples d'orientation vers les principes évangéliques d'obéissance, de vérité, de vie et de formation de disciples en Christ. Ces marques, portées sous nos vêtements, nous rappellent les alliances que nous avons contractées, et le respect de ces alliances nous relie au Christ. Maintenant, je reconnais qu'il s'agit d'un sujet sensible. Nous n'aurions peut-être pas dû consacrer autant de temps à en discuter, mais notre prochain sujet pourrait être encore plus sensible. C'est l'histoire de Sarah et Agar. Vous vous souvenez du scénario de base ? Abraham et Sarah n'ont pas d'enfants. Au moment où nous arrivons à Genèse 16, Abraham a 85 ans.
Sarah en a 75.
Il ne semble pas que les enfants viendront naturellement. Alors Sarah propose un plan. Elle dit à Abraham, « Le Seigneur m'a empêché d'enfanter. Je te prie, va vers ma servante, afin que j'obtienne des enfants d'elle et d'Abraham. » Écoutez la voix de Saraï. Pour nous, dans une perspective moderne, c'est une histoire terrible, comme ce qui se passe du point de vue de Sarah, même si c'est une forme valable de maternité de substitution. Mais dès qu'Agar attend son bébé, la tension monte. Agar manque de respect envers Sarah.
Sarah est a fusk.
Elle commence à devenir violente et Agar s'enfuit dans le désert. Maintenant, faisons une pause et rappelons-nous que cette histoire date de plus de 4000 ans et que nous n'en avons que des fragments. Nous devons donc faire très attention à la manière dont nous l'interprétons. On peut juste en faire un peu idée native. Il est intéressant de constater que de nombreux commentateurs bibliques critiquent Sarah. Ils disent que Sarah n'exerce pas la foi. Elle aurait dû faire confiance au timing de Dieu. Ils pensent qu'en proposant à Agar, vous savez, d'être la mère porteuse, c'est un échec de la part de Sarah. Et peut-être qu'il y a certainement des moments où nous devons rester immobiles et laisser Dieu faire son œuvre. Mais je pense aussi qu'il y a une façon très différente de voir Sarah. Nous pourrions la voir comme une femme de grande foi. Je veux dire, elle a quitté sa maison avec Abraham. Elle a du mal. Et la terre promise, les promesses qui lui ont été faites n'ont pas été tenues. Alors elle se dit, « Tu sais, tu es censé faire tout ce que tu peux. Je vais franchir cette étape terrible et même offrir ma servante à Abraham. » Je peux voir Sarah faire cela comme un acte de grande foi. Et encore une fois, nous n'avons pas tous les détails. Par exemple, la section 132 des Doctrines et Alliances ajoute un aperçu qui n'est pas présent dans le récit de la Genèse. Le Seigneur dit « J'ai commandé à Abraham de prendre Agar pour femme ». Ainsi, avec cette perspective supplémentaire, il semble que Sarah n'interfère pas avec le plan de Dieu. Elle contribue à y parvenir, alors j'espère que nous pourrons admirer la foi de Sarah. Cela ne justifie évidemment pas qu'elle abuse d'Agar, mais aucun de nous ne veut être jugé sur ses pires moments. Mais tournons-nous vers Agar. Car aussi difficile que soit la situation de Sarah, celle d'Agar pourrait être bien pire. Nous n'avons aucune idée de la façon dont Agar s'est retrouvée chez Sarah dans la maison d'Abraham, mais il est presque sûr qu'elle ne s'est pas inscrite. Elle vient d'un autre pays. C'est une femme. C'est une servante. Il est difficile d'imaginer quelqu'un avec moins de pouvoir qu'Agar. Lorsque le projet de la faire devenir mère porteuse est envisagé, il est très douteux qu'elle ait eu son mot à dire en la matière. Agar nous rappelle que parfois nous allons nous retrouver dans un endroit sombre et difficile que nous n'avons pas choisi d'être, et que nous y sommes sans que ce soit de notre faute. Quand Sarah commence à maltraiter Agar, Agar s'enfuit dans le désert. Imaginez une femme enceinte seule, effrayée, épuisée. Elle n'a aucun pouvoir, aucune protection, aucun plan. Certains d'entre vous se disent peut-être « Waouh, j'aimerais pouvoir simplement regarder un film sur Agar. » Souhait exaucé, il existe en fait un court-métrage sur Agar. J'y ai mis un lien sur le site web de notre cours et je vous encourage vivement à le consulter. Agar est donc en fuite. Elle est désespérée, seule dans le désert. Mais malgré tout, elle n'est pas trop perdue pour être retrouvée. Nous lisons que l'ange du Seigneur a trouvé Agar. Maintenant, faites une pause un instant. Saviez-vous que dans la Bible, la première fois qu'un ange apparaît à quelqu'un, c'est à Agar ici même ? Ce n'est pas à Moïse. Ce n'est pas à Abraham. C'est à une servante en fuite. Qu'est-ce que cela nous apprend sur la façon dont Dieu considère les marginalisés? Alors l'ange du Seigneur trouva Agar près d'une source dans le désert et lui dit « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu? Et où vas-tu? Quelque chose pour dire que Dieu ne se soucie pas de l'endroit où tu es allé. Il ne se soucie que de l'endroit où vous allez. Mais ce verset me fait réfléchir à ce sujet parce que l'ange demande spécifiquement « Où étais-tu ?» C'est la première fois que quelqu'un appelle Agar par son nom dans cette histoire. C'est la première fois que nous entendrons la voix d'Agar. J'aime la façon dont Dieu crée un espace pour qu'Agar puisse raconter son histoire. Il se soucie de notre histoire et Agar dit « Je fuis ma maîtresse ». Remarquez que l'ange a demandé « Où vas-tu ?» Mais Agar, je ne pense pas qu'elle sache où elle va. Elle dit « Quoi ?» Elle s'en va, mais elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Je me demande si la même chose est vraie pour nous. Parfois, nous fuyons quelque chose, mais nous ne savons pas vers quoi nous courons. Cela n'a pas d'importance. Le Seigneur trouva Agar là où elle se trouvait. Le Seigneur dit à Agar, « Retourne chez ta maîtresse et soumets-toi à elle. » Maintenant, encore une fois avec des oreilles modernes. Cela peut paraître un peu dérangeant, et j'espère que personne ne tirera un principe de cette histoire. Vous devriez retourner dans une relation abusive. De toute évidence, ce n'est pas le message que nous souhaitons transmettre dans son contexte. Il est très possible que dans les circonstances d'Agar, ce soit la seule façon pour Agar et son enfant de survivre. Et ce sera un enfant très spécial. Le Seigneur dit, « Tu es maintenant enceinte et tu vas donner naissance à un fils. Tu l'appelleras Ismaël. J'augmenterai tellement ta descendance qu'elle sera trop nombreuse pour qu'on puisse la compter. »
Quelle promesse !
Alors Agar revient et elle donne naissance à Ismaël. Et comme vous le savez, Ismaël deviendra le père de nombreuses nations arabes. Et selon la tradition, le père de Mohammed. Ainsi, l'histoire dont nous parlons ici dans Genèse 16 est vraiment fondamentale pour les trois religions abrahamiques que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. Maintenant, à la fin de la conversation entre le Seigneur et Agar, Agar fait quelque chose que personne d'autre dans la Bible n'a fait jusqu'à présent. Elle nomme Dieu. Elle dit « Tu es le Dieu qui me voit ». Pensez-y un instant. Vous adorez un Dieu qui vous voit. Si vous avez déjà eu l'impression que le téléphone ne sonne plus autant qu'avant, l'histoire d'Agar est faite pour vous. Et si vous avez déjà consacré des années de votre vie à élever des enfants en vous demandant si quelqu'un se souvient de votre sacrifice, l'histoire d'Agar est faite pour vous. Et si vous vous remettez d'un traumatisme que personne n'aurait jamais dû subir, l'histoire d'Agar est spécialement pour vous. Parce que Dieu a trouvé Agar dans le désert et il peut vous trouver dans votre désert. Si Agar peut dire que tu es le Dieu qui me voit, Dieu te voit aussi. Maintenant, ce serait formidable de dire que l'histoire d'Agar s'est terminée par une fin heureuse. Mais rappelez-vous nos attentes. Même lorsque vous faites la mission du Seigneur, la vie vous réserve de nombreux défis. Ainsi, 14 ans plus tard, Ismaël est désormais un jeune homme. Sarah donne naissance à Isaac, un conflit familial surgit à nouveau et Ismaël et Agar sont renvoyés. Alors qu'ils errent dans le désert, Agar et Ismaël manquent d'eau. Nous lisons qu'Agar a mis le garçon sous l'un des buissons. Puis elle est partie s'asseoir près d'un buisson et s'est éloignée car elle pensait « Je ne peux pas regarder le garçon mourir ». Et tandis qu'elle était assise là, elle se mit à sangloter. Ismaël sanglotait et nous lisions. Dieu a entendu le garçon pleurer. Dieu a vu Agar. Il entendit Ismaël et dit « Qu'y a-t-il, Agar ? N'ayez pas peur. » Alors Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Peut-être que le puits est apparu comme par magie, mais je pense qu'il était là depuis le début. Dieu lui a ouvert les yeux et l'a aidé à voir ce qu'elle ne pouvait pas voir dans son moment de désespoir. Et lorsque nous sommes dans des moments de désespoir, Dieu peut nous ouvrir les yeux et nous aider à voir ce que nous ne pouvons pas voir. Faisons juste une pause. Y a-t-il des commentaires que quelqu'un souhaite faire sur tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent? Mon cœur va vraiment à Agar. Elle essayait de faire de son mieux. Elle faisait ce qu'on lui demandait de faire, et il semblait que peu importe ce qu'elle faisait, tout se retournait contre elle. Je pense que beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier à cela. J'adore ça. L'expiation nous affine. Il est le seul qui peut nous changer. Si nous nous tournons vers lui, nous pouvons essayer de toutes nos forces de le faire nous-mêmes. Mais si nous ne nous tournons pas vers lui, nous ne pouvons pas changer, il nous affine. C'est lui qui va nous changer. Alors comment le sais-tu? Comment avez-vous vu cela dans votre propre vie? Je pensais que je n'aurais jamais besoin de l'expiation. En grandissant, ai-je pensé, je ne ferai jamais rien de mal. Je pensais que l'expiation était pour les erreurs. Et j'ai réalisé que j'avais besoin de ce raffinement pour guérir la douleur, la colère et toutes ces choses. Et c'est à ce moment-là que j'ai dû me tourner vers lui pour obtenir cette purification de mon âme et de mon cœur dont j'avais besoin. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il était là pour chaque expérience de la vie. Merci. Maintenant, nous pensons souvent à l'histoire d'Abraham et d'Isaac et à la manière dont ils constituent un type de Père Céleste en Jésus-Christ. Je me demande si nous pourrions faire la même chose pour Agar et Ismaël. Agar était une servante, méprisée et chassée. Jésus aussi était un serviteur souffrant. La pierre rejetée par les bâtisseurs. Ismaël a pleuré dans le désert, nous rappelant le Christ sur la croix. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il y a une différence. Dieu entend le cri d'Ismaël et lui donne de l'eau pour le sauver. Mais quand Jésus crie, il n'y a pas de secours. Quelle est la différence? Pourquoi? C'est parce que Christ prenait la place de chaque Ismaël, de chaque Agar, de chacun de nous. Il dit, « J'ai soif pour que nous puissions boire les eaux vives. » Christ a été chassé pour que nous puissions y être introduits, et cela signifie que l'histoire d'Agar est notre histoire. Le Dieu qui a vu Agar, le Dieu qui a entendu Ismaël est le Dieu qui vous voit. Il est le même Dieu qui est promis à chacun de nous. Dans Jean chapitre 14, « Je ne vous laisserai pas sans réconfort. Je viendrai à toi. Il est le Dieu qui vous voit. »